Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Brasil Alto Astral sur Aligre FM 93.1. Gilles Bourgarel pour vous servir. Tâchez de vous être agréable. Depuis le début de la semaine, Aligre FM est le moment, qui est le média qui nous héberge ici, à Césure. Célébrons, marquons le coup du 125e anniversaire de la loi sur les associations à but non lucratif. C'était le 1er juillet 1901, c'est le 125e anniversaire. Donc on organise une semaine thématique. C'est un événement qui... la promulgation de cette loi au tout début du XXe siècle a permis l'éclosion de multiples associations qui assurent une cohésion sociale. On peut parler de liberté de création également, de la culture, de l'éducation, de la science, de la solidarité, du divertissement. Et c'est un tissu associatif qui n'est pas motivé par le profit et qui vient compenser parfois les carences de l'État. Nous sommes quatre ce matin dans l'émission. Trois invités. Luciana Granzotto, j'ai bien prononcé votre nom.
Oui.
Vous êtes brésilienne et vous êtes coordinatrice de l'association... votre titre, c'est quoi, de l'association Outre Brésil?
C'est chargée des projets.
Chargée de projets. Ouais. L'association Outre Brésil traduit en français des articles de presse qui sont parus au Brésil, avec, on va dire, un éclairage, beaucoup de thématiques sociales, environnementales. Vous parlez volontairement des minorités, du mouvement des sans-terre, notamment. Donc on est loin du cliché de Copacabana, futebol et caipirinha, on est d'accord.
Tout à fait.
Et vous organisez un festival chaque année, le Festival Brésil en Mouvement. Et je dois dire qu'on a, nous, à Aligre FM, une proximité avec Outre Brésil. On a eu le plaisir de recevoir Erika Campello plusieurs fois, Jean Tibli, Nawal Kahoum, Fred Lira. Et vous êtes salariée, Luciana,
Outre
Brésil.
Oui, c'est ça, la salariée de l'association.
Donc, association basée à Paris.
Exactement.
Nous sommes en présence de Guillaume Poza, de l'association Cap Magellan. Bonjour Guillaume.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Merci de la participation. L'association Cap Magellan a été fondée en 1991 et c'est la plus grande association de jeunes lusophones. Vous faites la promotion de la langue portugaise et de la culture lusophone. Et vous êtes responsable logistique d'une vaste campagne de sécurité routière, sécurité qui sensibilise les Français qui vont se rendre, ou les
luso-descendants. Maintenant, forcément, dès qu'on parle de sécurité routière, on parle à tous et pas que aux luso-descendants. On fait cette campagne depuis 2003. Aujourd'hui, on lance notre 23e campagne. Par ailleurs, ce week-end.
Donc vous sensibilisez les personnes qui vont traverser
qui font effectivement ce voyage France-Portugal ou même de plus loin, Allemagne, Luxembourg, Suisse, et on est présent sur les aires de repos en France, sur les frontières Espagne-Portugal, et puis dans les boîtes de nuit également, pour sensibiliser au-delà du voyage à l'alcool, aux drogues et à tous les facteurs accidentogènes de la route.
Ouais, la fatigue, la vitesse, etc. Donc vous êtes chef d'entreprise par ailleurs, Guillaume Poza, et vous êtes bénévole donc à l'association Cap Magellan.
On est bénévole depuis maintenant 12 ou 13 ans dans l'association. Effectivement, mon parcours de chef d'entreprise entrepreneur me permet aussi de libérer un peu plus de temps pour le monde associatif. Et voilà.
Et nous sommes en présence de Frédéric Villot. Vous êtes cofondateur du Moulin à Café. C'est un café associatif dans le 14e arrondissement. Vous défendez une cuisine solidaire et durable. Vous créez du lien social car c'est un café associatif avec accès à la culture pour tous. On peut manger pour 10 euros, même si on n'est pas adhérent du Moulin à Café. Et vous êtes l'auteur du livre « Les cafés associatifs » aux éditions Les Petits Matins, qui est une maison d'édition indépendante.
Absolument. Bonjour Gilles, bonjour à toutes et tous.
Une maison que pas pareil, qu'on suit et qu'on aime bien. Je ne vais pas faire de mauvais esprit, mais c'est une maison indépendante à la différence de Grasset, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est ça.
Sans mauvais jeu de mots du tout.
Voilà, il n'y a pas de grand capital derrière cette maison d'édition. Elle est indépendante, elle fait ses choix éditoriaux et elle édite de très bons auteurs.
Vous êtes donc auteur, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes fondateur de Média, c'est le Média Mediatico, on est voisins d'ailleurs.
Absolument, nos locaux sont à Césure, donc moi je suis journaliste et spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, donc tout le monde associatif, coopératif, les mutuelles, les fondations. Et ce Média existe depuis 13 ans maintenant et on est effectivement hébergé à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Je me permets juste d'avoir une petite pensée aujourd'hui autour de, enfin, dans cette émission sur le Brésil pour Jacqueline Dreyer. Jacqueline Dreyer, c'est une représentante responsable associative du 14e arrondissement, là où se trouve le Moulin à Café. Elle a fondé l'association Sol do Sul. J'espère que je le prononce bien.
Oui, le Soleil
voilà.
Du Sud. Oui,
ouais, c'est ça. Et son objet avec cette association, c'est de valoriser les talents des personnes handicapées, brésiliennes ou pas brésiliennes, mais évidemment, elle est très ancrée dans la communauté brésilienne. Donc j'ai une pensée pour elle aujourd'hui.
Oui, c'est, je trouve que c'est tout à fait louable. C'est comme des restaurants qui emploient des personnes en situation de handicap. Bah voilà, c'est bien parce que ça, c'est aussi un facteur de, enfin, ça crée du lien social et d'inclusivité. Alors, c'est la semaine thématique que nous vous proposons. Et c'est le dernier Brésil avant des grandes vacances bien méritées. Si on commençait en musique, Luciana, qu'est-ce que vous nous suggérez d'écouter pour une première musique?
Bon, là, j'ai choisi Vanessa da Mata et après Maria Bethânia. Ce sont les deux femmes qui incarnent des voix féminines très, très puissantes.
Très différentes aussi.
Très différentes, oui, c'est vrai. Maria Bethânia est une immense interprète. Je pense qu'elle porte une mémoire culturelle très forte du Brésil. Et Vanessa da Mata, elle est un peu le Brésil contemporain. Et donc, ses chansons, elle mêle douceur et réflexion.
Beaucoup de douceur, je suis d'accord avec vous, Luciana.
Beaucoup de douceur, ouais. Et avec une écriture sensible aussi, sous les relations humaines et la société. Donc, les deux.
Alors, c'est votre choix, Luciana Granzotto, Vanessa da Mata.
Só, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas na minha voz. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas na minha voz. Não me deixe só, tenho desejos maiores, eu quero beijos intermináveis, até que os olhos mudem de cor. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro.
Nous sommes ensemble pour notre heure de musique brésilienne hebdomadaire et obligatoire. C'est Brasil Alto Astral sur Aligre FM 93,1. Et nous organisons donc cette semaine thématique avec le moment qui nous héberge, avec Luciana Granzotto de l'association Autre Brésil, Guillaume Poza de Cap Magellan, l'association Cap Magellan, et Frédéric Villot de Mediatico. Est-ce que vous voulez bien, c'est votre choix, Luciana, nous désannoncer votre premier choix musical?
Bien sûr, c'est Vanessa D'Amata, l'artiste, et on vient d'écouter « Não me deixe só ».
Vous êtes en France depuis longtemps, Luciana?
Depuis 2023. En fait, j'ai fait un post-doctorat en 2022. Je suis revenue au Brésil et après j'ai décidé de revenir. Donc je suis installée à Paris depuis 2023.
Alors, on vous demandera au cours de cette émission que vous peut-être précisiez le modèle économique de Autre Bien Brésil. Sûr. Je disais que nous, on a une affection particulière pour Autre Brésil parce que je ne vois pas d'autres associations qui fait le travail que vous faites. Mmh. Si on veut venir en aide à des personnes en difficulté, on a le choix de je ne sais pas combien d'associations qui sont toutes aussi louables les unes que les autres, mais vous, vraiment, ce travail de décryptage que vous faites et de proposer du contenu gratuit, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller sur le portail Autre Brésil et je peux lire des articles qui sont traduits en français.
Oui, tout à fait. Une fois par semaine, on fait la publication. Et donc, on fait des publications aussi sur d'autres réseaux, mais notamment sur les sites. Et donc, aujourd'hui, ce travail éditorial de traduction et de diffusion d'articles issus des médias indépendants brésiliens. Donc, ça, il faut toujours renforcer que c'est des médias indépendants. Et cette activité est coordonnée pour Patrick Pirot, qui est un membre d'OCA.
Le conseil d'administration.
Oui, c'est ça, exactement. Il s'appuie sur une équipe de bénévoles. Donc ça, il faut vraiment renforcer que l'Autre Brésil, elle existe. il y a deux axes, enfin, il y a deux portes. L'une d'entre elles, c'est des bénévoles. Donc, il y a des financements, mais aussi des bénévoles. Aujourd'hui, nous avons environ 30 bénévoles. Et les bénévolats, pour rendre assez accessibles les traductions, c'est hyper important. C'est un travail en continu toute l'année.
Alors, article issu de la presse indépendante, ça c'est un choix éditorial, mais si par exemple il y a un article, on va dire, cohérent et objectif, par exemple qui sort dans le Globo, est-ce que il y a un a priori, c'est non, Globo c'est non, ou est-ce que vous pouvez proposer...
Alors je dis Globo... Oui, bien sûr.
Alors je dis Globo parce que c'est le plus gros groupe de presse, médiatique du Brésil.
Bien sûr, je pense qu'il y a toujours un regard critique, donc on peut les faire, mais qu'en croisant d'autres contenus, ou d'autres magasins pour parler d'un article qui vient d'un grand média et qu'il faut tout à fait parler, et notamment cette année qui c'est l'année des élections au Brésil, c'est d'ici quelques mois.
Alors absolument, élection présidentielle, et je me souviens qu'il y a donc un petit peu plus de 4 ans, il y avait deux candidats pour l'élection présidentielle, c'était le président, c'était pas Lula parce qu'il était en prison, c'était Haddad.
Ah, 2018, oui.
Et Bolsonaro. Alors ouais. Bolsonaro, on ne le connaissait pas trop encore, on ne savait pas trop qui il était, et je me souviens que votre association Autre Brésil, c'était une initiative de Erika Campello, a improvisé un débat qui s'est tenu à la Maison de l'Amérique latine, qui a accueilli, je crois, gratuitement. Autre Brésil, la salle était bondée, pleine, et on était dans un moment un peu d'urgence, d'effervescence. Donc voilà, Autre Brésil est...
Oui, elle a beaucoup soutenu les élections. Je pense qu'elle a eu un rôle très, très, très important. Bien sûr, en coalition avec d'autres associations, institutions franco-brésiliennes, mais c'est vrai qu'elle a eu un rôle fondamental ici à Paris, pas que dans la maison de l'Amérique latine, mais aussi d'autres rassemblements à Paris.
Et on suivra bien sûr de près les prochaines échéances électorales. C'est Brasil Alto Astral, vous écoutez Aligre FM. Le Le monde associatif, c'est la thématique qui nous anime tout au long de cette semaine. Vous êtes trois, je vais vous poser la même question. Je vais vous demander si la situation est grave, mais pas désespérée, parce que le tissu associatif est en crise profonde face à une baisse de 40% des subventions publiques ces 20 dernières années. On parle de presque 2 millions de salariés, 1,8 million au sein des associations en France et 20 millions de bénévoles. Et cette situation financière s'est bien sûr aggravée avec la crise du Covid, puisque l'État a fait le choix du quoi qu'il en coûte, ce qui est très bien. Il y a des pays où c'était débrouillez-vous. Là, l'État a donc largement indemnisé les personnes qui étaient lésées. Mais évidemment, après, il faut faire des choix budgétaires puisque le déficit de la France est bien sûr aggravé. Il existe plus d'un million d'associations actives en France avec, on va dire, trois gros tiers plus ou moins équivalents en termes de domaines: le sport, la culture et les loisirs. Et précisons qu'une association à but non lucratif peut tout à fait générer des bénéfices, mais que les bénéfices ne peuvent pas être partagés entre les membres. Ils doivent être réinjecté dans l'association. Alors, on va essayer de voir le verre peut-être à moitié plein. D'après vous, Frédéric Villot, donc vous êtes journaliste, est-ce que la situation est grave mais pas désespérée ?
Elle n'est jamais désespérée, la situation, parce que les associations reposent sur leurs membres, les citoyens, les habitants, et même quand une association meurt, d'autres se créent. Vous savez qu'il y a 70 000 associations qui se créent par an en France en ce moment, mais dans le même temps, il y en a beaucoup qui meurent aussi.
C'est vrai.
Donc c'est la vie associative qui est comme ça, et même si demain c'était la catastrophe, vous savez qu'aujourd'hui il y a 30% des associations en France qui ont moins de 3 mois de trésorerie d'avance. Ça veut dire 30% des associations en France peuvent mourir dans l'année.
93.
Et risquent de mourir dans l'année parce que la situation économique générale et les versements de subventions ne s'améliorent pas. Donc on va probablement perdre cette année et l'année prochaine beaucoup, beaucoup de nos associations. Mais la situation n'est pas désespérée parce que il reste nous, vous et moi, et on va se retrouver pour se bagarrer pour les sujets qui importent pour nous. D'une autre façon, avec d'autres associations ou de façon informelle. Bref, ce sont les humains qui font les associations et les humains sont toujours là.
Alors, je partage tout à fait votre diagnostic, Frédéric Villot. Vous êtes auteur d'un livre dont on va parler, paru au Petit Matin. Et je vais donner la parole à Guillaume Poza de l'association de Cap Magellan. Mais je vois Aligre FM, qui est une radio indépendante, une radio associative qui existe depuis plus de 40 ans, a failli mettre la clé sous la porte je ne sais pas combien de fois. On a déménagé je ne sais pas combien de fois. Et voilà, il y a toujours des nouveaux programmes, des personnes qui sont intéressées, qui apportent du sang neuf, qui viennent assurer la technique. Et
Il y a des associations qui mettent vraiment la clé sous la porte, qui ferment et qui licencient leurs
collaborateurs. Absolument,
ça existe aussi. Ça n'empêche que les projets des associations répondent à des besoins, que les besoins demeurent et qu'on va essayer d'y répondre autrement ensuite. Mais il y a des vraies liquidations judiciaires.
Ah oui, absolument. Dans Brasil Alto Astral, vous écoutez Aligre FM, nous évoquons l'avenir du monde associatif. On est en direct jusqu'à midi. Guillaume Poza, vous représentez donc l'association Cap Magellan, vous êtes bénévole. Alors Cap Magellan, j'ai le sentiment que c'est une grosse association très structurée qui dispose de moyens quand même assez conséquents.
Alors les moyens, c'est toujours pareil dans le monde associatif, c'est-à-dire que les subventions publiques sont de moins en moins présentes, les subventions privées, n'en parlons pas, les sociétés ne veulent plus ou ne financent que très peu, par exemple les campagnes de sécurité routière. Sur les préfectures, par exemple, sur la sécurité routière, on est accusé de communautarisme en faisant de la sécurité routière, alors que la sécurité routière s'adresse
à tout le monde.
À tout le monde.
Bien sûr.
Ce qu'on fait aujourd'hui, la plupart des associations, ce qu'elles font aussi, c'est des délégations de services publics. La sécurité routière, Cap Magellan répond en fait à une demande de l'État.
Et là, vous vous substituez
un petit peu
à l'État qui parfois n'est pas là.
Qui n'est pas là ou très peu, ouais. Et qui ne finance pas, pardon, à hauteur des actions qui devraient être faites par l'État. Cap Magellan, c'est 4 salariés, des stagiaires, des services civiques, des bénévoles. Rien que sur la campagne de sécurité routière, on est à plus d'une centaine de bénévoles sur presque 3 pays.
D'accord.
Donc c'est vraiment une grosse structure. Mais pour faire vivre une grosse structure comme ça aussi, il faut des fonds. Et malheureusement, les fonds, on ne les a pas forcément.
Mais
non plus.
Vous voulez dire que vous n'avez pas de mécène, Guillaume Poza ?
On a toujours, selon nos différentes actions sur la sécurité routière, on a des partenaires. Sur la lusophonie et sur la langue portugaise, on a d'autres partenaires. Mais derrière, effectivement, on a plus ou moins les mêmes. Mais il n'y a pas de mécène qui injecte de l'argent.
Ah oui, qui vous soutient. Oui, d'accord.
Voilà.
Non, je vous pose la question parce qu'on voit parfois, lorsqu'il y a des événements, il y a la radio portugaise, Radio Latina, qui, je ne sais pas si elle continue, mais tous les ans organisée...
Radio Alpha.
Radio Alpha, qu'est-ce que j'ai dit ?
Latina.
Oui, pardon.
Ça, c'est les autres.
Ouais. Qui, tous les ans, je ne sais pas si ça continue, organisait une grande fête. En général, c'était à peu près à cette époque-là. Et il y avait souvent la banque portugaise qui apparaissait d'une manière assez visible.
Exactement. Alors, Radio Alpha est un média qui fête ses 40 ans aussi cette année, puisque Cap Magellan fête ses 35 ans cette année.
D'accord.
Et Radio Alpha a organisé effectivement cette fête pendant de longues années, mais ça coûte cher, c'est pareil. Et même si les banques restent partenaires, ce qu'elles pouvaient donner à l'époque, aujourd'hui, elles ne le donnent plus.
Oui, d'accord.
Voilà. Parce que nous aussi, on a des banques qui sont partenaires sur nos actions. Mais c'est pareil, ce qu'elle donne et ce qu'elle donnait à l'époque, c'est un petit peu maigri.
Ah bah je me souviens
fondu au soleil.
Ah oui, je me souviens d'une année, c'était il y a peut-être plus de 10 ans, mais ils ont quand même fait venir Daniela Mercoli, qui a chanté donc gratuitement. Alors elle n'a pas chanté gratuitement, elle a été payée évidemment, mais les spectacles étaient gratuits. Je ne sais pas si vous imaginez, Luciana, le cachet de Daniela Mercoli, mais c'est une des chanteuses qui est le plus payée au Brésil. Donc c'était des budgets tout à fait conséquents. Ouais.
La fête de Radio Alpha était payante. Les entrées étaient payantes.
Ah, c'était payant ?
Exactement. Par contre, la fête de Poto Combo, qui est une fête de l'association portugaise de Poto Combo ainsi que de la ville de Poto Combo, elle est gratuite. Elle devient payante depuis quelques années d'ailleurs, puisque du coup, il y a moins de subventions, moins d'aides des sociétés privées. Donc, même les fêtes qui étaient gratuites avec un fort intérêt deviennent payantes. C'est une contribution, donc on est à 2 euros ou 5 euros.
D'accord.
Par contre, Radio Alpha, oui, c'était un billet de 20 ou 30 euros pour accéder à la fête sur le week-end entier.
Ah bah, je m'en souviens, je me souviens pas d'avoir payé, mais...
Ou alors...
Peut-être qu'il m'avait invité, je sais plus, mais...
Ou alors même plus ancien, puisque du coup, ils l'ont quand même fait pendant 15 ans.
D'accord. Voilà. C'était, en plus, c'était des endroits qui étaient assez sympas. C'était au lac de Créteil.
Exactement.
Et c'était... Voilà. Alors, vous pour Cap Magellan, vous organisez... Donc, vous êtes le responsable logistique de cette campagne. Sécurité, est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ? J'imagine que ça ne vous occupe pas toute l'année à Cap Magellan.
Alors, la campagne, elle, effectivement, est lancée sur le mois de juillet et on est très axé sur l'été. Depuis quelques années, on répond aussi à des demandes sur les vacances de Noël, sur les vacances de Pâques. Par contre, la sécurité routière, c'est annuel. C'est-à-dire qu'effectivement, le pic d'activité... c'est là, sur le lancement de la campagne annuelle, sur les déplacements au Portugal, sur les discothèques ou autres. Par contre, on intervient toute l'année, soit dans les lycées, soit dans les préfectures, sur des villages de sécurité routière organisés par des partenaires.
Oui. Et alors, c'est vrai que ce voyage, il est un peu redouté parce qu'il est long, déjà, quand on part de Paris. Et puis, il y a le fameux coup de barre. Et puis, je crois qu'il y a une grande ligne droite quand on est dans le nord de l'Espagne qui est propice à l'endormissement. Donc... voilà, d'où
alors, exactement, l'idée de la sécurité routière, c'est de rappeler en fait les règles de base, c'est faire des pauses toutes les deux heures, respecter les limitations de vitesse. Quand on est sur des aires de repos...
Oui, non, allez-y, Guillaume. Non, c'est parce que vous faisiez du bruit, voilà.
Quand on est sur les aires de repos, c'est rappeler ces règles-là, ouais. Et puis échanger avec les conducteurs, les automobilistes sur le trajet... Et alors, même si ce n'est que 3 minutes d'échange, c'est déjà une pause qui marque sur ces aires-là.
C'est la campagne Sécure Été qui est organisée par l'association Cap Magellan. Vous venez nous en parler, Guillaume Pouza, et nous sommes en présence de Frédéric Villot. Vous êtes auteur, vous êtes journaliste, et de Luciana Gransotto de l'association Autre Brésil. C'est à l'IGRFM que vous écoutez. Frédéric Villot, vous proposez donc votre livre qui s'appelle comment ? Les cafés associatifs. Je ne sais pas si votre micro est ouvert. On vous entend parfaitement. Est paru donc au mois de mars de cette année. Et il y a un chapitre qui dans votre ouvrage,
qui vous a interpellé,
qui s'appelle 20 ans après, l'étude d'impact confirme la pertinence de notre projet social. C'est-à-dire, comment est-ce que vous êtes capable de dire ça ?
Nous avons fait une mesure d'impact.
Ouais. Mais comment ça se passe, une mesure d'impact ?
Je vais expliquer un petit peu pourquoi on l'a fait. D'abord, ce livre, il sort à l'occasion des 20 ans du Moulin à Café. Nous aussi, on a des anniversaires à souhaiter. On a les 125 ans de la loi de 1901, on a les 20 ans du Moulin à Café, les 30 ans dont parlait tout à l'heure Guillaume. Au bout de 20 ans, on se dit, OK, on a fait un café associatif dans le 14e arrondissement. Il y en a une bonne quinzaine à Paris et en petite couronne autour de Paris. Le mouvement s'est développé. On a toujours voulu souhaiter qu'il y ait d'autres cafés associatifs parce qu'on voit à quel point ils sont importants au cœur de leur quartier. Mais le ressentir, ça ne veut pas dire le prouver. Et quand Guillaume nous parle des difficultés d'accès au financement public ou privé, il faut bien dire, moi je le vois dans mon métier, du coup chez Mediatico, je vois que les financeurs demandent de plus en plus de chiffres aux associations pour pouvoir mesurer la pertinence des financements qu'ils accordent. Alors quand je mets ma casquette associative, je me dis, il va falloir qu'on prouve que ce qu'on fait est utile. Comment est-ce qu'on le mesure ? On fait des sondages, on quantifie. Il y a des choses qui se quantifient, qui se chiffrent. Il y a des choses qui ne se chiffrent pas et qui relèvent du ressenti.
Oui.
Jusqu'à quel point on est utile pour lutter contre l'isolement des personnes âgées dans le quartier ou des chômeurs ou des migrants, parce que l'isolement touche, ou des étudiants. L'isolement touche beaucoup de monde à Paris. À quel point on est utile pour servir la solidarité alimentaire locale. Parce qu'on a installé, par exemple, sur notre terrasse au Moulin à Café, lorsque j'y étais encore, parce que j'ai quitté le conseil d'administration, mais on a installé un frigo solidaire.
D'accord.
Donc les habitants apportent de la nourriture, les plats qu'ils ont cuisinés et qu'ils n'ont pas terminés. Les commerçants alimentent aussi le frigo solidaire. Et puis les gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour faire leurs courses...
Ils viennent se servir. Ah, très bien, d'accord.
Les étudiants de la résidence étudiante viennent se servir. Le frigo est posé à l'entrée de la résidence étudiante. Et puis les personnes sans revenus viennent aussi se servir. Donc l'alimentation, c'est un support de solidarité. Et ça, comment on le mesure ? Comment est-ce qu'on mesure tout ce qu'on va mettre dans le frigo tous les jours et tout ce qui est retiré du frigo ? Il est souvent vide, notre frigo. Ça ne veut pas dire qu'il est inutile et qu'il ne sert pas et que non. C'est une opération ratée. C'est qu'on le remplit et qu'en une heure, il est vidé.
J'ai envie de dire, ça sert
tellement
à ça,
il est utile, effectivement. Donc on a fait une mesure d'impact avec différents questionnaires ciblés sur nos bénévoles, sur nos usagers, sur nos salariés et sur les gens qui sont juste de passage. Et on a posé chaque fois une bonne vingtaine de questions qui pouvaient changer un petit peu selon la nature du public. Et à la fin, on fait une synthèse de tout ça. Et puis on vérifie et on regarde que 95% des gens qui fréquentent le Moulin à Café le recommande à l'extérieur, que les bénévoles qui viennent pour donner un coup de main reviennent aussi en dehors de leur mission de bénévolat parce qu'ils aiment le lieu. Ouais. Et donc, il y a énormément de choses précieuses qui ressortent d'une mesure d'impact.
Donnez l'adresse du Moulin à Café.
Alors, ça se trouve au 9 Place de la Garenne, dans le 14e arrondissement, au métro Pernetti. C'est un petit peu en dessous de Montparnasse, c'est donc au sud de Paris, pour ceux qui ne sont pas parisiens.
Donc, pas loin de l'entrepôt.
Pas loin de l'entrepôt, absolument. Une autre forme de café associatif, 30 ans avant, mais beaucoup plus gros, c'était un entrepôt. Nous, on n'a que 70 mètres carrés.
Mais vous dans votre cas, les locaux, 93. Est-ce que vous louez les locaux ? Est-ce qu'on les met à votre disposition ? Comment ça se passe ?
Non, les locaux sont loués auprès d'un bailleur social.
D'accord.
Qui a même accepté, il y a une dizaine d'années, de baisser le loyer à notre demande. Et il s'est dit, finalement, ce qu'on fait, c'est bien, on a envie de soutenir l'association, on ne va pas leur donner de l'argent, mais on va leur baisser le loyer, ce qui est une autre façon d'aider une association.
De vous soutenir, bien sûr. Et ce que vous disiez est vrai, Frédéric Villot, c'est-à-dire qu'on demande même à des associations des garanties, mais des chiffres. Et je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle La Maison des Femmes avec l'excellente Karine Viard, où elle joue donc une responsable d'une maison qui vient en aide à des femmes victimes de violences conjugales, etc. Et à un moment, il y a un de ses collègues, qui, alors évidemment elle se bat contre vent et marée, et qui lui dit « Mais oui, mais on se vend mal, on ne se markete pas, contrairement aux petits pandas des écolos ». Parce qu'il y a en plus il y a une enquête qui est diligentée pour voir si effectivement cette maison des femmes est viable, intéressante. Et c'est un peu cynique, je trouve, de dire ça, mais ça veut dire que peut-être même quand on est sans but lucratif, parce qu'à un moment elle fait imprimer des t-shirts, alors on peut acheter le t-shirt, etc. Et ben peut-être que même si on est dans le monde associatif, il faut entre guillemets se marketer un petit peu. Ou est-ce que c'est un gros mot? Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric?
Non, oui, on peut décider que c'est un gros mot, mais en fait, on a absolument besoin d'être visible. Quand on est dans le monde associatif, on a le nez dans le guidon. On se dit, on va s'occuper de notre public, nos bénéficiaires, nos usagers, on le dit comme on veut. On va s'occuper aussi des salariés quand on en a, parce qu'il faut bien organiser les choses. On va s'occuper de sa trésorerie à court terme, parce que quand il n'y en a plus, on sait qu'on va mettre la clé sous la porte. Donc en fait, on a énormément de choses à gérer et on en perd pas notre raison d'être, mais notre visibilité qui consolide notre raison d'être. Et si on n'est pas visible, en fait, on n'existe pas. Donc on a besoin de faire du marketing. Le petit panda, c'est bien quand on a un logo qui marche. Tant mieux, mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut avoir des petits visuels qui accrochent l'œil, mais il faut aussi construire le discours. Et tout à l'heure, Guillaume parlait sur la sécurité routière de l'État qui vient plus suffisamment en aide financièrement aux associations qui les aident. Mais j'avais envie de réagir en disant, mais aujourd'hui, on a des attaques politique contre les associations culturelles, écologistes, féministes, les associations qui se battent pour les droits. Et en fait, ce que je constate, moi, en tant que journaliste, c'est que ces associations peinent énormément à trouver les arguments pour dire « évidemment qu'on est utile, évidemment que vous avez besoin de nous et on va vous le prouver ». Et on n'est pas encore dans cette méthodologie-là associative. Il faut qu'on apprenne ça pour prouver à quel point on est utile et à quel point on est
indispensable. Vous avez tout à fait raison, Frédéric Guillaume, mais ça demande aussi quelques moyens, parce que vous avez mené des entretiens, vous y avez passé du temps. J'imagine que ça a un coût aussi de mesurer cet impact.
Alors, ça demande des moyens, ou alors ça demande des bénévoles compétents.
Oui.
Et moi, je crois plus aujourd'hui, parce que les moyens financiers, en fait, on ne va pas les inventer. Ou alors, dans un café associatif comme le Moulin à Café, où les plats sont à 10 euros pour les non-adhérents et à 8 euros pour les adhérents, on sait qu'on ne fait pas la marge d'un restaurateur classique.
Bien
ça
ne
suffit pas. Donc, soit on augmente les prix, mais on se coupe de notre public bénéficiaire et on a un problème d'identité, soit on trouve d'autres moyens. Et l'autre moyen qui me paraît évident aujourd'hui dans l'ensemble des associations, c'est de trouver des bénévoles compétents, du mécénat de compétences dans les entreprises qui vont mettre à disposition des salariés pendant quelques jours. Mais il nous faut vraiment des compétences. Donc là, en l'occurrence, on parle de compétences en communication, en plaidoyer, en rédaction de documents de synthèse et de documents de plaidoyer. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut.
Alors, c'est la semaine thématique Caligre FM et que Le Moment vous propose à l'occasion du 125e anniversaire de cette loi du 1er juillet 1901. Demain, c'est la dernière soirée Paris Samba Soul de Nicolas Sonne avec au Spaliokesh. Demain à 21h, c'est au Son de la Terre, la péniche qui est amarrée au pied de Notre-Dame. Ça commence à 21h et ça coûte 15 euros. J'ai entendu cette semaine que la coordination Sud-Est, et c'est un collectif de 188 ONG françaises de solidarité internationale. Cette coordination a lancé en mars de cette année une vaste campagne pour collecter des espaces publicitaires gratuitement. Et TF1, par exemple, a octroyé 30 diffusions de spots publicitaires. Ont également joué le jeu Libération, France Télévisions, Snapchat, Google, Le Monde, ce qui représente une valeur de 700 000 euros d'achat d'espace. Donc pour de la diffusion de messages de solidarité internationale. Alors quand je vous demandais si la situation était grave ou désespérée, on peut aussi faire l'effort de regarder un petit peu le verre à moitié plein. Nous sommes direct jusqu'à midi sur Aligre FM. Article.
uma paixão nacional, como Jorge Benjor.
Nesse verão você merece uma cerveja, nesse calor você merece uma Antártica.
Melhor pra você.
Nesse verão você merece uma cerveja.
Guillaume Posa, vous êtes bénévole à l'association Cap Magellan. D'ailleurs, concordance du calendrier, le 27 juin, je suis tombé sur une émission qu'on peut réécouter en podcast, une émission de France Culture consacrée à Magellan. Il vous suffit pour ça de taper sur votre barre de recherche France Culture. Magellan, c'était l'émission de Romain Bertrand. Qu'est-ce qui a fait que vous, Guillaume, vous vous engagiez bénévolement, parce que par ailleurs, vous avez vos activités, vous êtes chef d'entreprise. Quelle est votre motivation de donner de votre temps à l'association Cap Magellan ?
Pour ma part, en fait, je trouve que c'est important aussi de participer à une vie associative. La communauté portugaise et l'uso descendante étant très importante, je fais moi-même déjà partie de deux associations, donc de Cap Magellan sur toute cette partie en fait sécurité routière et organisationnelle et terrain. Et à côté de ça, je suis musicien aussi à la Philharmonique portugaise de Paris.
Ah, d'accord. Vous jouez de quel instrument ?
Flûte traversière.
Très bien.
Qui est un orchestre en fait qui reprend les codes des orchestres portugais en France, et on est un peu les seuls en Europe. Ça, c'était mon côté passion musique, puisque d'accord. J'ai commencé la musique à 7 ans, et c'est grâce en fait à la Philharmonique que j'ai pu intégrer Cap Magellan par la suite. Donc il y a 12-13 ans, comme je le disais un peu avant, au début sur toutes les actions, et puis de plus en plus me centrer sur la sécurité routière, et uniquement sur la sécurité routière, qui je trouve en fait est très importante et qui doit avoir un impact réel sur les mentalités. Mentalité portugaise, enfin de luso-descendant ou tout simplement de tout citoyen.
Après, dans le cadre de cette campagne sécurité, quand vous êtes sur une aire de taureau, vous vous adressez à tout le monde, j'ai envie de dire. Si vous êtes dans le sud-ouest de la France, dans la région de Bordeaux.
Bien effectivement, la campagne est faite et propulsée vers les luso-descendants. Maintenant, on ne fait pas de tri. C'est-à-dire que sur un stand de sécurité routière, n'importe quelle personne qui vient nous voir sera servie, enfin servie d'une certaine manière,
sensibilisée,
et on aura un échange, peu importe la nationalité, peu importe d'où
c'est
vient.
C'est pas une approche communautaire, contrairement au procès qu'on vous faisait, que vous évoquez, Guillaume Posa.
Certaines préfectures qui en fait accusent que la campagne est très dirigée vers les Portugais et la luso-descendance, et qu'on oublie un petit peu que la SR est pour tout le monde, enfin. Pour le coup, même si on dirige le message aux luso-descendants, le message de sécurité routière passe à tout le monde.
On est d'accord. Luciana Ganzotto, vous êtes salariée de Autre Brésil. Alors c'est un travail à plein temps, hein, vous travaillez Autre Brésil.
Oui.
Vous, dans votre cas, alors Autre Brésil, c'est une petite association par rapport peut-être à Cap Magellan en termes de budget, en termes d'effectifs. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
Oui, très bien, parce que je voulais vraiment rebondir à ces au sujet de contexte budgétaire actuel. Juste pour mieux situer, l'association Autre Brésil, elle a été cofondée par Erika Campello depuis, ça fait 25 ans.
D'accord.
On est situé au CICP, qui c'est le Centre international de la culture populaire, dans les 11e. Donc, on a déjà une base solide de public engagé, un public franco-brésilien, mais pas que, d'autres pays de l'Amérique latine nous soutiennent aussi. Notre modèle économique, c'est, je pense que comme la majorité des associations culturelles, c'est hybride. Donc, ça veut dire qu'on a des subventions publiques, comme la ville de Paris, des fondations partenaires privées selon les projets, des cotisations des adhérents et adhérentes,
alors,
les membres.
Donc moi, ça veut dire que je peux adhérer, si je souhaite, je peux adhérer à Autre Brésil.
Vous pouvez soit donner un don soit adhérer. Et avec des avantages après pour les adhérents et adhérentes.
Lors du festival peut-être ?
Oui, lors du festival, tout à fait, mais pas que. On a une vidéothèque, donc pas mal de films et documentaires du Brésil.
Online ?
Donc, non, en fait, il y a quelques-uns qui sont online, mais d'autres qui sont plus anciens, qui on peut vous donner.
Vous pouvez prêter des DVD, par exemple ?
Oui, c'est ça.
Très bien.
Exactement. Et là, on est en train de faire la catégorisation. On va avoir un service civique à partir du lundi. Donc, je suis très contente.
Ah,
ouais,
c'est une première pour votre Brésil ?
Non, ça arrive souvent. Mais pour moi, ça fait un an que je suis à l'autre Brésil. Et donc, ce serait très bien parce qu'on organise là, en ce moment, le festival Brésil Mouvement. Il a lieu du 17 au 19 au 7 Panassien.
Et ce sera quand, Luciana ?
Du 17 au 19 septembre.
Septembre.
Oui. Tout à fait.
À Montparnasse.
À Montparnasse.
Alors, j'en profite pour dire que souvent, il y a des documentaires vraiment d'un très bon niveau qui sont diffusés. Hein.
Oui, on peut dire déjà, ça fait quelques années qu'on a ces slogans, que c'est l'un des plus grands festivals documentaires du Brésil. Donc, on invite des réalisateurs, réalisatrices, pas que, mais d'autres personnes qui sont impliquées dans les contextes au sujet des films. Et donc, c'est un festival, c'est 3 jours, cette année, 4 films, trois documentaires et un court-métrage. Et donc, il y a toujours des discussions, des débats. Donc, c'est ça, c'est la richesse.
Ah oui, il y a projection et débat.
Oui, on a aussi une soirée d'ouverture avec de la cuisine brésilienne qui est présente. Mais juste pour dire, parce qu'on parlait du budget de cette année... l'association Comoto Basic, c'est une association franco-brésilienne qui travaille avec des partenaires brésiliens. Les contextes sont encore un peu plus particuliers cette année parce que le Brésil est dans une année d'élections présidentielles.
Ah, oui.
Donc ça veut dire que c'est une période où nombreux financements publics et privés sont ralentis ou reportés dans l'attente des nouvelles orientations politiques.
Un grand classique, hein. C'est la même chose en France.
Ouais,
quand il y a des échéances, tout est gelé,
ouais,
on attend.
C'est
voilà.
Ça. Ouais. Et donc comme ça, on va lancer lundi prochain une nouvelle campagne de crowdfunding, justement pour soutenir les festivals Brésil Mouvement.
Alors moi, je m'y engage à titre personnel. Je vais vous soutenir, comme je l'avais fait
Merci.
Il y a quelques années. Ce sera sur Hello Asso ou ce sera...
Oui,
hein,
sur Hello Asso, on va diffuser
d'accord.
Depuis les sites. Et donc, c'est de certaine façon, les gens qui soutiennent, qui vont soutenir, vont être aussi partenaires du festival.
Alors, Luciana Granzotte, redonnez peut-être les dates du prochain festival, précisément.
Oui, c'est du 17 au 19, c'est du jeudi au samedi, septembre 2026 ou 7 Parnassien.
Alors, une chose que je n'ai pas forcément comprise, vous avez des partenaires privés au Brésil. Quel intérêt de vous aider financièrement ? Quel intérêt ?
Oui, par exemple, là, on a envoyé un dossier pour Embratur.
Donc, Office du tourisme brésilien.
Oui, exactement. Et ça veut dire que c'est pour diffuser pour les institutions brésiliennes, des institutions brésiliennes. L'avantage, c'est de diffuser les Brésils contemporains
oui.
aussi.
Oui, alors d'accord.
Ouais.
Dans ces cas-là.
Oui, dans ces cas-là, donc c'est des accords.
C'est
et même, il y a des contreparties qui, nous, on va au Brésil aussi. Et
d'organiser
l'événement là-bas. C'est ça, la saison... en fait, les festivals de l'année dernière, soutenus pour la saison au Brésil en France, on a fait ça.
Très bien.
Donc, on a eu un festival au Théâtre de la Concorde, ici, et au Brésil, à Brasilia et à São Paulo.
C'est bien de
ouais.
faire des deux côtés.
Ouais.
Alors, Luciana, vous avez évoqué... Alors, Autre Brésil, c'est le nom de l'association. Vous avez évoqué donc, votre festival qui s'appelle Brésil en mouvement.
Oui.
Vous avez souligné l'importance des bénévoles. Et je voudrais dire également et tirer mon chapeau au festival du film brésilien de Paris qui est organisé par l'association Jean Gada à Montparnasse
oui.
également.
De Katia.
De ouais. Katia Adler oui. qui fait un travail admirable parce
ouais.
qu'à un moment, il n'y avait plus de ministre de la culture,
ouais.
il n'y avait plus de ministère de la culture, mmh. hein, c'était sous Bolsonaro. Et même, je lui ai dit, mais je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu fais. Enfin, elle fait vraiment un travail admirable. Et ce festival du film brésilien de Paris a lieu chaque année au mois d'avril au cinéma L'Arlequin. C'est Brasil Alto Astral, vous écoutez Aligre FM et vient de sortir une quadruple compilation brésilienne signée Véronique Mortaigne chez Universal Music. C'est là, je ne sais pas combien de compilation de Véronique Mortaigne. Et ben, je trouve ça quand même génial qu'on sorte encore des disques. 4 doubles CD depuis le 12 juin chez Universal Music. Frédéric Villot, donc vous êtes un des fondateurs du Moulin à Café, ce café associatif dans le 14e. Vous êtes journaliste indépendant. Est-ce que c'est un geste politique, clairement, de créer un café associatif ?
Alors, ça dépend pour qui. Pour moi, oui. Certains des cofondateurs n'avaient pas d'intention politique. Moi, en réalité, à l'origine, j'en avais pas non plus. Mais j'ai découvert qu'il y avait une intention politique qui est la création de liens sociaux, la lutte contre l'isolement, la solidarité alimentaire. Et tout ça, ce sont des actes politiques à hauteur de citoyens. C'est ce que j'ai voulu dire dans le livre. Hein. Le sous-titre du livre, Les cafés associatifs, c'est l'engagement citoyen à hauteur de quartier. Et donc, chacun dans son quartier, on peut aller porter des engagements politiques. Il faut simplement s'engager et puis aller porter ses idées, bien sûr, et développer des actions. C'est ce que font tous les cafés associatifs, en réalité. Ne serait-ce que d'accueillir les gens avec des tarifs pas très élevés. Ça commence par ça. Et puis après, on peut rajouter des choses dedans. Donc, au Moulin à Café, je me souviens qu'on a fait des soirées brésiliennes avec musique brésilienne, film brésilien, nourriture brésilienne et puis le drapeau brésilien en vitrine, etc. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'ouvre au monde et ça veut dire aussi qu'on accueille tout le monde pour faire la fête. Parce qu'évidemment, si on met le drapeau du Brésil, on se dit qu'il va y avoir une fête. Et ça fait du bien de faire la fête ensemble. Donc ça, c'est important.
Oui, et puis vous avez aussi un chapitre dans votre livre, Frédéric Villot, c'est « Donner une âme à son café ». C'est aussi une manière de donner une âme à son café.
Absolument, on donne une âme. Et j'ai un autre chapitre juste à côté qui est particulièrement politique, qui parle des relations entre les cafés associatifs, mais on peut élargir à toutes les associations, avec le monde politique. Comment est-ce qu'on fait ? L'objet du livre, c'est de dire, on raconte l'histoire du Moulin à Café, je donne des clés pour en créer d'autres, je cite 40 exemples de cafés associatifs ailleurs.
Très bien, d'accord.
Et donc, vous pouvez vous inspirer, parce qu'il y a 40 modèles différents, et bien plus que ça encore. Et donc, on se dit, ok, en réalité, on fait tous des choses très similaires, avec chacun sa particularité, mais on a tous les mêmes difficultés. L'accès au monde politique en est une, parce que derrière la politique, il y a le soutien public, il y a donc les financements, il y a la relation de confiance. Et donc, oui, il y a un chapitre sur la politique. Comment est-ce qu'on fait pour créer un café associatif dans une ville dont on n'est pas d'accord avec le maire ? C'est très très compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour aller porter des messages politiques citoyens sans rentrer dans la politique politicienne ? La plupart des cafés associatifs sont apolitiques, mais ils font de la politique au quotidien.
Oui, au sens noble du terme, j'ai envie de dire.
Oui, on s'occupe de la cité. C'est ça qu'on fait en fait. Hein. Donc, j'aborde tout ça dans ce livre et c'est des questions qui traversent l'ensemble des cafés associatifs de France.
Et on rappelle, Frédéric Villot, qu'il n'est pas nécessaire d'être adhérent. N'importe qui peut pousser la porte du Moulin à Café, on est d'accord ?
Pour le Moulin à Café, oui. Pour le bar commun qui est dans le 18e arrondissement, vous êtes obligé d'adhérer pour pouvoir consommer.
D'accord.
Donc quand vous entrez, que vous ne savez pas que vous commandez un café, on vous dit le café c'est 2 euros, mais je te l'offre si tu prends l'adhésion à 2 euros. Et donc comme on prend l'adhésion à 2 euros, on a un café offert et hop, ça y est.
Eh ben, très bien.
Ni vu ni connu, vous êtes déjà adhérent.
Et voilà, c'est ça. Donc C'est le café associatif, le Moulin à Café dans le 14e arrondissement. Luciana, vous êtes venue avec un deuxième disque. C'est peut-être le moment d'écouter Maria Bethagne.
Tout à fait.
Comment s'appelle cette chanson ?
Reconvexo.
Bon, ça c'est un petit clin d'œil à Salvador de Bahia.
Eu sou a chuva que lança areia do Sahara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador. Balançando pelo e que
nada de Andy Warhol. Que não, e nem disse que não. Eu sou a sereia que dança, destemida e ara, ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador. Que não seguiu o Olodum balançando pelo. E que não riu com a risada de Andy Warhol. Que não e nem disse que não. Sou preto, norte-americano forte.
Brasil Alto Astral sur Aligre FM. Redites le nom de la chanteuse à la voix grave que vous avez choisie, Luciana.
Maria Bethânia.
Qui est une des plus, on est d'accord, une des plus grandes chanteuses brésiliennes. Toujours vivante, hein, Maria Bethânia.
Ouais.
Et son frère aussi. Caetano Veloso.
Très actif, les deux.
On célèbre à l'occasion du 125e anniversaire de la loi du 1er juillet 1901 ce précieux tissu associatif. Vous faites un travail qui est vraiment important en termes de cohésion, enfin chacun dans vos domaines d'ailleurs. Est-ce que parfois vous avez malgré tout des moments peut-être un peu de découragement, Luciana, qu'est-ce qui vous anime, ou est-ce que parfois vous vous dites bon bah là on va dans le mur, le fils de l'ancien président Bolsonaro risque de se présenter, ou alors sa femme, alors qu'on vient déjà d'avoir 4 ans de régime d'extrême droite de la part d'un ancien militaire, est-ce que parfois vous avez des moments de découragement ou...
Oui, bien sûr, on en a, mais je crois que les côtés ça, c'est les côtés brésiliens. On a beaucoup d'espoir et on a en mémoire des résistances et des luttes. Donc, ça veut dire que, bon, on a déjà passé des moments hyper compliqués.
Bah, vous avez connu la pauvreté, vous avez connu l'esclavage,
la dictature militaire,
la dictature, l'occupation. Ouais. C'est pas pour être désobligeant, Guillaume, mais la colonisation du Portugal.
Ouais.
On vous a tout fait, hein, les Brésiliens, et malgré
tout
fait, vous avez le sourire, je ne sais pas comment vous faites.
C'est ça, la danse, la musique. Oui, c'est vrai que ça, c'est des astuces, des stratégiques. Mais je crois que, bon, on croit que l'association, c'est pas seulement une institution, c'est un ensemble des idées, d'envie. Je pense surtout qu'il s'est investi dans la démocratie, dans la culture aussi, dans les vivre ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on crée les choses et qu'on va résister.
Et au Brésil, on est plus encore dans le collectif qu'en France, je trouve. On est vraiment dans le collectif. Souvent, les Brésiliens, ils détestent la solitude, hein, souvent.
Ah oui.
Vous adorez être en bande, hein, les Brésiliens.
Ouais, c'est sûr.
Alors, Luciana Granzotto, vous êtes salariée de l'association Autre Brésil. Frédéric Villot, est-ce que vous, parfois, vous vous dites, bon, foutu pour foutu, est-ce que parfois, ça vous arrive d'être découragé?
Ça m'arrive d'être découragé. Je ne suis jamais allé jusqu'à foutu pour foutu, on arrête tout. Mais le découragement, oui, bien sûr.
Non, ou alors moi d'abord, excusez-moi l'expression, mais je pense à ma gueule, maintenant c'est bon.
Bien sûr, ça arrive. Ça arrive, et d'ailleurs, si soi-même on ne va pas bien, on ne peut pas s'engager pour le collectif.
Ouais.
Donc c'est important de faire en sorte que soi-même on aille bien d'abord, en réalité. Et ensuite, on peut s'engager pour le collectif. Moi, mes sources de découragement, elles sont... Il y en a plusieurs. Il y a les questions de financement, bien sûr, on en parlait tout à l'heure.
Bah, c'est crucial.
Il y a les questions de gouvernance, les relations humaines entre nous. Ce n'est pas toujours facile, il ne faut pas le cacher non plus, c'est la vérité. Et puis, il y a, je crois que ce qui est le plus dur qu'on vit aujourd'hui, c'est les attaques contre la démocratie. Voilà, et donc aujourd'hui, on se demande vraiment où on va et pourquoi on n'est pas reconnu dans tous les efforts qu'on déploie au quotidien au service des autres, au service de l'intérêt général. Moi, je crois que c'est là que le découragement est le plus important. Et en même temps, c'est aussi un moteur de combat. On se dit, on va rien lâcher, on va y aller. Et c'est dans le collectif qu'on se ressource.
Donc, alors, oui. Alors, je pense que vous êtes reconnu, enfin, je pense, vous, les associations, mais c'est comme avec, j'ai envie de dire, l'hôpital public. On sait qu'il y a un problème avec l'hôpital public. Pourquoi est-ce qu'on ne règle pas le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui attendent dans les couloirs pendant 4 heures sur des brancards? Alors que, quand on, je suis désolé, on est un pays riche, hein. La France, quand on veut, on peut. Hein.
Vous avez raison, on ne parle pas des mêmes personnes dans l'absence de reconnaissance. Les Français reconnaissent notre valeur.
D'accord.
Le gouvernement, l'État ne le reconnaît plus, ne le dit plus, ne le montre plus. Et le problème, il est là. C'est donc bien un problème de démocratie.
Oui, la démocratie, d'ailleurs, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. J'aime bien cette maxime. Vous êtes donc un des fondateurs du Moulin à Café dans le 14e. Guillaume Poza, pour l'association Cap Magellan, là, on arrive à la fin de notre programme. Est-ce que ça peut vous arriver aussi, parfois, d'être un peu découragé?
Je rejoins ce qu'ont dit Luciana et Frédéric. Pardon. Sur cet ensemble, forcément, quand on a des projets, qu'on veut les lancer et que derrière, on n'a pas forcément ni les moyens humains, ni les moyens financiers ou autres, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que trouver des bénévoles aujourd'hui qui n'attendent rien en retour de l'associativisme, bah, il y en a de moins en moins. Et donc forcément, à un moment donné, quand on a des projets, qu'on veut aller plus loin et qu'on n'a pas ni la main-d'œuvre, ni le financement, on peut se décourager, mais le moteur, comme disait Frédéric, c'est aussi de se surpasser sur ces actions-là.
Alors, vous dites, Guillaume, le bénévole, il n'attend rien en retour, d'accord, mais c'est quand même, pour l'estime de soi, c'est quand même valorisant de consacrer, de donner du temps, d'avoir l'impression d'être utile.
Tout à fait. Alors, dans ce que je voulais dire, c'était une contribution financière ou autre.
Ah oui, bien sûr.
Quand on fait du bénévolat, forcément, personnellement, moi j'en fais depuis des années, j'attends rien en retour.
Bien sûr.
Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens attendent généralement d'avoir quelque chose en retour, que ça soit financier ou non, mais ils sont toujours dans cette attente d'avoir une reconnaissance quelconque qui, quand on fait du bénévolat, n'est pas forcément nécessaire.
Alors, le tissu associatif, tout ce que vous faites, tout ce que vous représentez, représente vraiment une grande richesse, je pense. C'était le thème de cette semaine à l'initiative du Moment qui nous héberge et qu'on remercie car le Moment nous permet de bénéficier de leur studio et d'Aligre FM. Luciana Granzotto pour Autre Brésil, Frédéric Villot de Mediatico, Guillaume Poza de Cap Magellan, merci de votre participation.
Merci.
On était vraiment
pour l'invitation.
Content de
merci
faire
beaucoup.
Cette émission avec vous. C'est le dernier Brésil Alto Astral de la saison car nous allons partir pour des très longues vacances d'été bien méritées. Merci à Philippe Dunfort qui a assuré la technique de cette émission. Les programmes d'Alifre FM reprendront à 17h.